êtes à l'écoute des messages Vie d'Alliance avec l'évêque Alexandre Amen.
Dimanche dernier, on a lu Genèse 22, versets 1 à 8, qui parlait d'Abraham et d'Isaac. La Bible dit, lorsque Abraham allait pour le sacrifice de son fils sur la montagne de Morija, pendant leur parcours, à un moment donné, Isaac va interpeller son père et va demander à son père, « Je vois le bois, je vois le feu, mais où est le sacrifice ?» Son père va lui dire, « Mon Dieu se pourvoira. » Et Isaac, bien sûr, va prendre les choses comme son père l'a dit. Il va aller. Après, son père va le lier et va le déposer sur l'autel. Isaac ne fera rien. Et nous avons fait cette remarque importante pour dire que Isaac n'a pas fait cette remarque comme ça. Si Isaac a remarqué que quelque chose manquait, c'est parce qu'on le lui a dit. Donc Abraham a enseigné Isaac, a formé Isaac à connaître Dieu. Donc Isaac connaissait Dieu. Voilà pourquoi Isaac pouvait dire à son père, « Tu ne m'as pas appris que faire un sacrifice, on utilise le bois et le feu sans le sacrifice. » C'est-à-dire, ou pour offrir à Dieu, il y a toujours un sacrifice. Donc, en fait, Isaac a interpellé son père pour lui dire, « Dans ce que nous allons faire, on va adorer Dieu, mais moi, ce que tu m'as appris, c'est que dans l'adoration de Dieu, il y a toujours quelque chose qu'on appelle le sacrifice. » Donc, il est important, je l'ai dit, donc, d'apprendre ou d'éduquer ceux qui viennent après nous, d'éduquer nos enfants, de former nos enfants. Vous savez, c'est un sacrilège quand un père ou une mère vient à l'église et laisse ses enfants à la maison. C'est une honte, c'est une trahison. Parce que vous avez la responsabilité de la génération qui vous suit. Et Proverbe 22 est très clair. Il dit, éduquez ou éduque l'enfant dans la voie qu'il doit suivre afin que grandissant, il ne s'en détourne pas. J'ai été très clair. Les enfants ne connaissent pas la voie. C'est à vous d'éduquer les enfants dans la voie qu'ils doivent suivre. Si vous n'éduquez pas vos enfants dans les voies qu'ils doivent suivre, quelqu'un d'autre va les éduquer. Vous serez surpris, chrétien, né de nouveau, diacre, ancien dans les églises, et vos enfants seront des pédés, vos enfants seront des gens qui prennent la drogue et qui sont des bandits de grand chemin. Vous allez jeûner, prier toute votre vie pour que Dieu les change. Ce sera trop tard. Parce que Dieu n'a pas de petit-fils, comme je l'ai dit. La foi ne s'hérite pas. C'est-à-dire, la foi n'est pas un héritage. On ne dit pas, je suis un homme de foi, mes enfants vont hériter de ma foi. Ça ne c'est pas comme ça. Ce qu'on n'a pas enseigné à un enfant de faire, il ne saura jamais le faire jusqu'à ce que Jésus revienne. Voilà pourquoi vous avez la responsabilité. Pourquoi? Parce que cette génération qui vient là, si ils n'ont pas le repère qu'il faut, on les a perdus. Et quand vous regardez le monde aujourd'hui, quand vous allez dehors, quand vous regardez dans les lycées et collèges, les choses, les rapports que les gens nous renvoient, de ce qui se passe dans nos lycées et collèges, entre les jeunes filles, à partir de 10 ans, 11 ans, 12 ans, 15 ans, les jeunes gens, la drogue qui circule dans les lycées, la perversion sexuelle qui circule dans les lycées, si vous n'éduquez pas vos enfants, la rue va les éduquer. Internet va les éduquer. Leurs voisins vont les éduquer. Abraham a enseigné à Isaac comment connaître Dieu. Lorsqu'il a lié son fils ne s'est pas plaint. Il s'est laissé lier. Mais vous savez avec moi que Isaac avait pratiquement 17 ans. Et un enfant de 17 ans n'est pas un enfant qui n'a pas de force. C'est un enfant qui pouvait résister à Abraham, même le frapper ou prendre la fuite. Mais pourquoi? Isaac ne l'a pas fait. Isaac a reçu une éducation. Il savait que quand tu ne te laisses pas lier par un père, il y a un problème. Parce que n'oubliez pas que quand ils sont montés sur la montagne, on disait le Dieu d'Abraham. Mais quand ils sont descendus, ce n'était plus le Dieu d'Abraham seulement. C'était le Dieu d'Abraham et puis d'Isaac. Si tu ne sais pas te faire lier, le Dieu de ton père ne sera jamais ton Dieu. Il a su obéir à son père, il a su écouter son père, il a su recevoir la foi de son père. Et c'est cette foi-là qui a fait que désormais, lui, il est également Dieu d'Abraham. Comment le Dieu de quelqu'un sera ton Dieu si tu ne pousses pas sa foi? Mais la foi, elle se transmet, elle s'enseigne. Personne ne peut apprendre à faire quelque chose si on ne lui dit, voilà comment on le fait. C'est pourquoi notre responsabilité en tant qu'éducateur, c'est de vous dire la voie à suivre. C'est de vous dire ce qui est droit et ce qui n'est pas droit. On a dit beaucoup de choses dimanche dernier. Transmettez votre foi. Amen. Est-ce que quelqu'un peut dire amen? Alléluia. Frère, le monde que vous voyez là est un monde qui est foutu. C'est un monde qui est complètement foutu. Si nous ne donnons pas la voie à suivre à nos enfants, il ne faut pas négocier avec tes enfants. Quelqu'un ne peut pas être dans ta maison et il ne prie pas ton Dieu. S'il est trop grand pour prier ton Dieu, il est trop grand pour rester dans ta maison. Je dis, vous faites du mal à vos enfants. Quand vous croyez que vous les aimez trop, papy tout, tu vas à l'église, lui dort. Tu vas à l'église, il joue jeux vidéo. Et sur les jeux vidéo là, c'est des démons seulement. Hein. Il n'a rien dans sa tête si ce n'est pas Sangoku. Sangoku, tu sais ce que ça veut dire? Demandez aux Japonais, ils vont vous dire ce que ça veut dire. Vous savez, Dieu m'a interpellé. Nous sommes en train de perdre les traces des gens que Dieu... Vous savez, et c'est, le danger, c'est que quand vous lisez Ézéchiel 33, la Bible est claire. Il dit, je t'ai établi comme sentinelle de ta maison. Si tu ne sonnes pas la trompette pour avertir ceux qui sont en train de périr, si tu avertis qu'ils ne t'écoutent pas, ils mourront et leur sang va verser sur eux-mêmes. Mais si... Là où je t'ai établi, tu fermes ta bouche, tu regardes les choses se faire, tu ne dis rien, tu consens, tu laisses faire parce que c'est la mode, tu laisses tes enfants danser makuka, tu laisses tes enfants danser toutes les danses bizarres, tu les laisses avoir une autre foi que ta foi. Il dit, si ils périssent, je te redemanderai leur sang. Ça, c'est un jugement très grave. Nous avons la responsabilité d'éduquer les générations qui viennent après nous. Paul l'a dit, ce que je te transmets, ou ce que je t'enseigne, transmets-le à des hommes fidèles. J'ai dit, et je le répète, Dieu a dit à Josué, il dit, j'ai été avec ton père. Comme j'ai été avec Moïse, je serai avec toi. Pourquoi? Parce que Josué a su recevoir de son père. Vous savez, les fils n'ont pas de Dieu. Je le dis toujours, les fils n'ont pas de Dieu. Il y a un Dieu qui se transmet de génération en génération. Si tu casses le fil, c'est pourquoi je dis, si tu es un homme ici, tu es père de famille, ce matin je vais te parler, prends tes responsabilités. Si tu as perdu le bout de... C'est-à-dire, tu as perdu le contrôle sur ta maison, tu as perdu le contrôle sur tes enfants, tu as perdu le contrôle sur certaines choses qui se passent autour de toi, ce matin, il faut prendre tes responsabilités. Parce que ce n'est pas à quelqu'un que Dieu regarde. Quand il y a eu les problèmes à Éden, Dieu est venu, il n'a pas parlé à Ève. Il va faire quoi avec Ève? Il est venu dire, Adam, où es-tu? Me voici. C'est à Adam qu'il a parlé, parce que c'est à Adam qu'il a confié la responsabilité de la gestion de son environnement. Il dit, garde le jardin et cultive le jardin. Gardez, c'était à Adam de garder le jardin, de veiller à ce qu'un étranger n'entre pas. Et aujourd'hui, dans nos maisons, il y a tellement de choses qui entrent. Et nous, les responsables, les gardiens de la maison d'or. Il dit, les bornes qu'ont tracées nos pères, on n'a pas le droit de les déplacer. Amen. Je dis, quelqu'un ne te suit pas dans ta foi. qu'il soit un homme, même ta femme, elle n'a pas le choix. À moins que peut-être tu as dévié, puis tu as dit, non, moi je ne te suis pas dans, dans ton truc où tu es pas. Non, sinon, frère, qu'est-ce que Jésus a dit? Il dit, Père, tu as été avec moi et l'église que tu m'as confiée, je vais te la rendre au dernier jour sans tâche quoi. Tu as la responsabilité, même ta femme, parce que l'église, la femme est le symbole de l'église. Tu ne peux pas laisser ton conjoint, ta responsabilité c'est de présenter ce conjoint là au dernier jour à Dieu pour dire, Seigneur, j'ai gardé la dame là. Eh bien, elle est sans tâche ni rite. Parce que Christ est le symbole de l'homme dans le foyer. Et la femme est le symbole de l'église. Et de même que Christ va présenter l'église sans tâche ni ride au Père, tu as la responsabilité de présenter ta maison, ta femme, à Dieu pour dire, Seigneur, cette dame-là, tu me l'as confiée, je l'ai gardée. On ne prend pas enfin des gens pour en faire autre chose. Ou bien pour faire perdre la foi à la personne. Quelqu'un vient dans ta vie, il faut que son niveau de foi augmente. Et tu es là. Ton conjoint fait autre chose. Tu t'en fous. Et c'est ce qu'Adam a fait qui a créé les problèmes. Toi, Adam, quand Dieu est venu donner l'instruction, il a parlé à qui? Il a parlé à Adam, il n'a pas parlé à Ève. C'est à toi de transmettre à Ève pour dire, Ève, ici, là, étranger n'entre pas ici. On ne parle pas avec étranger. Tu as compris? Oui. Adam ne l'a pas fait. Et sa femme parle avec quelqu'un, tu ne connais même pas la personne, tu t'en fous, tu es en train de faire autre chose. Quand Adam a été corrompu, elle a été complètement transformée et elle est tombée dans le péché. Elle a désobéi à Dieu. Il a subi. Elle a envoyé pomme. Elle dit, c'est ce qu'on mange à midi. Le gars, il peut faire quoi? C'est elle qui prépare. Aujourd'hui, on mange pomme. Faut pas éduquer les gens dans ta maison. Le jour, ils vont te présenter un plat de lentilles. Tu vas comprendre. Alléluia. Non, sérieusement, on ne peut pas laisser les gens mourir. Notre responsabilité, c'est de parler de Jésus, d'enseigner ce que nous avons reçu. Est-ce que quelqu'un peut dire amen? Parce que le temps est arrivé pour que l'église se lève et que dans nos églises, on trouve des hommes et des femmes comme ça. Droits qui ont reçu. Mais regardez, il y a la génération des pasteurs qui arrivent, qui vont venir après nous autres là. Je ne sais pas comment ils seront, hein. Mais dans tous les cas, je bénis Dieu parce que Dieu préserve toujours une race. C'est Dieu. Préserve toujours une race de gens qui vont rester fidèles, attachés à la doctrine. Parce que les chrétiens que les gens forment maintenant, là, je ne sais pas c'est quel type de chrétien. Frère, l'affaire là est sérieuse. Hein? J'ai dit, si nos pères là ne nous avaient pas formés, tu ne serais même pas assis là où tu es aujourd'hui. Souvent, ce qui reste, c'est ce que tu as reçu. Je vous assure, ce qui reste, c'est ce que tu as reçu. Et tu te rends compte que, oh, heureusement, je suis allé à la bonne école. Parce que ceux qui vont à la mauvaise école, ce n'est pas facile, quel que soit. Il faut vraiment la grâce de Dieu pour que quelqu'un qui est allé à la mauvaise école redevienne un bon fidèle. 20 ans, 30 ans plus tard, il ne peut pas. Tu enseignes au gars, tu parles au gars, il t'écoute comme ça, il comprend rien. Il est tenté d'aller toujours vers ce qu'il a toujours été. C'est pas facile. Ce matin, nous allons continuer parce que, vous savez, avoir une vie d'impact n'est pas négociable. Dis à ton frère, ce n'est pas négociable. Si tu es né de nouveau, tu es destiné à influencer, à impacter. Quand je parle d'impacter, je parle d'impacter les autres. Toute vie qui n'a pas de prolongement dans les autres est une vie qui est au final zéro. Nous allons lire Matthieu 5, versets 13 à 16. Donc, on continue avec « Transmettez votre foi », deuxième partie. Matthieu 5, verset 13 à 16. Matthieu 5.
Vous êtes. Vous êtes le sel de la terre.
Amen. Et elle éclaire tous ceux qui sont dans la maison. Merci. Je voulais dire à tout le monde que nous sommes en direct. Que chacun fasse attention à la façon dont il sert dans la maison. Prochainement, je vais réagir en direct. Donc, soyez prompts dans vos gestes parce que nous sommes suivis dans le monde entier. Matthieu 5 dit, nous sommes le sel de la terre, nous sommes la lumière du monde. Et qu'on n'allume pas une lampe pour faire quoi? Pour la mettre sous le boisseau, mais on la met sur la table afin qu'elle éclaire toute la maison. Est-ce qu'on peut dire amen? Amen. Voyez, lorsque Jésus dit que nous sommes le sel et nous sommes la lumière, c'est une vérité. Mais une vérité qui doit avoir des conséquences. Quand un homme naît de nouveau, il devient la lumière, il devient le sel. Mais nous savons également quelles sont les propriétés qu'a le sel et qu'a la lumière. La lumière éclaire. La lumière chasse les ténèbres. Là où la lumière apparaît, les ténèbres... Donc la lumière et les ténèbres ne peuvent pas cohabiter. La Bible dit, lorsqu'on devient chrétien, on devient la lumière. Ça veut dire, partout où tu vas, ta vie doit éclairer, ta vie doit chasser les ténèbres, ta vie doit imposer le règne de Dieu. Est-ce qu'on peut dire amen? Amen. Deuxième chose, il dit, nous sommes le sel. Le sel a de la saveur, ou le sel donne de la saveur, ou donne du goût. Le sel a une autre caractéristique, c'est qu'elle préserve. Alléluia. Donc, ta vie en tant que chrétien doit être une vie qui donne de la saveur, une vie qui donne du goût à son environnement, une vie également qui préserve la décomposition de l'environnement dans lequel tu es. Nous sommes dans un monde en décomposition. Non, sérieusement, nous sommes dans un monde qui est en décomposition. Tout se décompose autour de nous. Et si l'église n'arrive pas à cette prise de conscience qu'elle a un mandat et que le mandat qu'elle a, c'est de veiller à ce que ce monde ou ce système en décomposition puisse garder son équilibre afin que la volonté de Dieu s'accomplisse par ce système, alors l'église a échoué. Voilà pourquoi je disais tout à l'heure, une vie qui n'est pas une vie d'impact est un échec. Parce que nous sommes sauvés ou nous sommes nés de nouveau pour impacter de nouveau. Nous sommes sauvés pour sauver. Dis à quelqu'un, tu es sauvé pour sauver. Je l'ai dit dimanche dernier, la foi n'est pas privée. Quand Dieu te communique une foi, cette foi-là ne dit pas c'est ma foi, ça s'arrête là. Non. Dieu s'attend à ce que cette foi-là puisse transmis à d'autres personnes afin qu'ils en bénéficient. Tu n'as pas dit ma foi c'est privé, moi ma foi je fais mes trucs, non. Parce que le véritable problème c'est qu'un homme à qui il refuse de transmettre devient illégitime. Je l'ai dit. Ce que tu as que tu ne transmets pas devient illégitime. Donc c'est un danger que de recevoir et de ne pas transmettre. Parce qu'il n'y a personne qui est né avec quelque chose. On dit, qu'as-tu que tu n'aies reçu? Demande à ton frère, qu'as-tu que tu n'aies reçu? Alléluia. Donc, nous sommes la lumière. Notre responsabilité, c'est d'éclairer. Malheureusement, ce matin, au premier culte, je disais aux gens, nous sommes en février, c'est notre mois d'évangélisation, notre mois de partage. Quels sont les invités qui sont là ce matin, qui sont venus parce que quelqu'un leur a parlé de Jésus? Est-ce qu'il y a des gens ici ce matin, par exemple? Tu es là parce que quelqu'un t'a invité. Lève-toi avec ton invité. La personne qui t'a invité. Formidable. On les acclame, s'il vous plaît. Regardez, asseyez-vous. Regardez sur le monde qu'il y a. À commencer par les pasteurs. Les responsables. Je vais vous dire, si la voix d'un homme ne porte pas dans votre vie, ou si la voix, ou si vous n'obéissez pas à la voix d'un homme, vous ne pouvez pas bénéficier également de ses bénédictions, parce que c'est par la même voix qui te donne des instructions qu'il te bénit. Donc si je dis quelque chose, tu ne prends pas au sérieux, il n'y a rien que je peux dire qui va affecter ta vie. Parce que ne croyez pas que nous sommes en train de jouer. C'est une affaire d'éternité. C'est peut-être ça te fait jouer, ça te fait rire. Quand on dit aller évangéliser, parler de Jésus, inviter des gens, il faut travailler pour que les gens comprennent, entendent parler de Jésus. Ça te fait peut-être rire, mais moi je ne ris pas. Moi je ne ris pas, c'est une affaire d'éternité. Dieu m'a mandaté, il m'a dit que si ce que j'ai fait là vous tient à cœur, ne fermez plus votre bouche. Mais il y a des gens, ils s'en foutent ici, ils s'en foutent. Comment tu peux te lever toi seul, venir à l'église? On dit, allez chercher, prier, parler avec des gens, expliquez-leur que Jésus est mort pour eux, parlez de Jésus. C'est trop fort pour eux. Vous êtes la lumière. On n'allume pas une lampe pour mettre sous la table, mais on met en haut pour qu'elle éclaire la maison. Là où Dieu vous a planté, c'est votre champ. Quel est l'éclat de votre lumière? Cette lumière, elle ne brille pas. Elle brille. Elle brille. La lumière a pour fonction de briller. C'est-à-dire, tu appuies la lumière, tu fais comme ça. On, ça va briller. Et quand ça brille, là, ça ne négocie pas. Tu es là. Tu es en train de faire quoi? Tu es en train de faire un micmac. Si ça s'allume sur toi, ça va te mettre à jour. La lumière ne négocie pas. Il est clair. Et quand il est clair, on voit. Par ta lumière, nous voyons la lumière. Vous êtes la lumière. Dans vos services. Normalement, là où vous travaillez, si tu es un policier, on devait avoir une trentaine de policiers à l'église. Si tu es banquier, on doit avoir une vingtaine de banquiers à l'église. Si tu es commerçant dans ton milieu là, on doit avoir 1000 commerçants. Mais écoutez, chaque semence se reproduit selon son espèce. Dieu ne t'a pas planté dans un milieu pour juste être dans le milieu. Dieu s'attend à ce que ta vie soit productive, que ta lumière brille. Dieu s'attend à ce que ta lumière brille. Dieu s'attend à ce que tu as dit à ton voisin, Dieu veut que ta lumière brille. Mais je vous le dis. Vous savez, beaucoup de gens ne pensent pas au Seigneur. Dieu a un battement de cœur comme toi. Tu as des besoins. Dieu a aussi des besoins. Mais comprenez comment les choses marchent. On vous l'a toujours expliqué. Dieu a un besoin. Dieu n'a pas besoin d'argent, mais il cherche des âmes. Parce qu'il a payé un prix, il ne faudrait pas que le prix là soit cadeau. Donc il cherche quelqu'un, il veut que le royaume soit rempli. Il cherche des hommes, des femmes. Il dit, je cherche des hommes. Maintenant, toi, tu cherches l'argent et position santé. Mais faites un deal. Seigneur, donne-moi la santé, je te donne les personnes que tu veux. Quelqu'un m'a rendu un témoin un jour. Il dit, mais c'est un grand homme de Dieu. Il a rendu le témoin. Il dit que comment il a été converti. Un jour, il était dans les rues. Et puis une jeune petite fille a juste sorti un petit traité et a dit, excusez-moi tonton. Et puis la jeune fille lui a donné le traité. Il dit, il n'a pas voulu jeter devant elle pour que ça ne fait pas bien. Donc il l'a mis dans sa poche. Il a oublié. Deux jours après, il faisait quoi là avec ses vêtements? Le traité est tombé et il l'a récupéré. Et c'était un moment où il n'avait rien à faire. Et puis il dit, il va jeter un coup d'œil. C'est le coup d'œil qu'il ne fallait pas donner. La première phrase l'a accroché. Il a continué. Il a continué. Quand il a fini, il était à genoux en train de pleurer. Aujourd'hui, c'est un homme de Dieu d'une immensité, mais qui fait des choses. Mais imaginez-vous, cette fille-là, pour chaque chose que cet homme fait dans la vie, elle a sa part des bénéfices. Je vous dis, quand vous convertissez quelqu'un, vous ne savez pas jusqu'à où ça peut aller. Moi, à chaque fois que je rencontre la personne qui m'a converti, vous savez comment il m'a converti? Il m'a appelé un jour comme ça, je le fuyais même. Il dit, toi là, viens ici, je veux te voir. Allez, viens. Je suis allé et puis il m'a parlé de Jésus. Mais quand il me voit aujourd'hui, il dit, mais et si je n'avais pas fait ça? Vous n'avez pas idée de ce que Dieu peut faire par vos mains. Mais je vais vous dire, il y a des personnes qui ne feront jamais le pas vers Dieu sans vous. Parce que Dieu vous a positionné là de façon stratégique. Vous êtes la voix de Dieu dans la vie de la personne. Et vous fermez votre bouche. S'il meurt, Dieu va vous demander son sang. Hein? Ce n'est pas une affaire qui est simple. C'est un jugement. Te demander le sang d'un homme. Nous devons être la lumière. Nous devons parler. Le temps est venu. Regardez comment la Côte d'Ivoire. Regardez la Côte d'Ivoire. Est-ce que vous savez que les chrétiens évangéliques à Cocody ne font même pas 1% de la population de Cocody? Mais regardez le monde qui est à Cocody. On ne fait même pas 1%. Mais regardez, on ne fait pas 1% à Cocody. Les gens sont, allez dehors, vous allez voir. Les gens sont dans les maquis, maintenant là, allez à l'arrêt de bus là, vous allez voir. Les gens se promènent, ils n'ont rien à faire dimanche matin. Il y en a qui marchent comme ça, ils parlent seuls. Ils savent, ils cherchent, ils disent quel féticheur je vais voir lundi. Parce que vraiment, ça ne va pas, j'ai fait des cauchemars. Si la personne peut te rencontrer juste, ma soeur, c'est fini. Sa vie prend une autre direction. Et tu as cette solution-là dans ta bouche. Et tu fermes ta bouche. Et tes yeux sont sur ton nombril. Qu'est-ce que je vais manger, je vais boire? Qu'est-ce que je vais porter? Quel homme qui va venir me marier? Tu vas attendre. 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 Tu ris. Vous ne connaissez pas Dieu, hein? Dieu a des besoins. Ceux qui aiment leur Dieu. Mais regardez tous. On va continuer. Bon, anyway. Ésaïe, lis-moi Ésaïe. Ésaïe 2, versets 1 à 3. Ésaïe 2, versets 1 à 3, oui.
Prophétie d'Ésaïe, fils d'Amoth,
oui,
sur Juda et Jérusalem.
Mm-hmm.
Il arriva dans la suite des temps que la montagne de la maison de l'Éternel sera fondée sur le sommet des montagnes.
Sera fondée sur le sommet des montagnes.
Qu'elle s'élèvera par-dessus les collines,
oui,
et que toutes les nations y afflueront.
Il prophétise pour dire, il va arriver un moment où la maison là, de l'Éternel là, sera fondé sur le sommet des montagnes afin que les nations voient la maison. Dieu n'a pas pour intention de cacher la maison. La maison que tu représentes là, Dieu ne veut pas la cacher. Mais Dieu veut bâtir cette maison là au sommet de la montagne afin que les nations, je dis bien les nations, il y a des personnes ici, je prophétise, ta vie dans ce monde entier, sera au sommet. Je dis, ta vie sera au sommet. Les nations verront ta vie. Et au travers de ta vie, donneront gloire à Dieu. Est-ce que quelqu'un peut dire Amen? Voilà l'intention de Dieu pour ta vie. Dieu n'a pas envie que tu restes dans l'anonymat. Parce que Dieu veut tirer gloire de ta vie. Il y a des gens ici. Mais écoute, il y a des gens ici. Tu devais être plus haut que tu es. Pour les talents que Dieu t'a donnés là, ce n'est pas ta place. Mais en réalité, quand tu refuses d'avancer, tu prives à Dieu sa gloire. Parce que Dieu, quand il te positionne et qu'on parle de toi dans les médias, on dit dans tel domaine d'activité, la sœur tant, et puis on dit ton nom, tu es à la télévision, et les gens cherchent, on dit c'est qui? On dit, elle est chrétienne, née de nouveau. C'est Jésus qui prend la gloire. Mais dans notre société aujourd'hui en Côte d'Ivoire, il y a combien de chrétiens nés de nouveau qui font la fierté des chrétiens? C'est-à-dire, on parle d'eux, on est content à Abidjan ici. Il y a combien? Dites-moi, c'est vrai. Il y a combien on veut s'identifier à eux? On dit, oh, 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 mais c'est pas vrai, ce type-là, c'est un chrétien, on est fier de lui. Notre frère est dans le gouvernement, il est ministre. Notre frère, il fait des choses. Même quand ils montent un peu, après, ils oublient Dieu. Il y a combien? Il n'y en a pas beaucoup. Voilà pourquoi, même quand quelqu'un s'en sort un peu dans une église, même, bon, tu vois, tout le monde est surpris parce que c'est un événement. Ce qui est normal devient un événement. Mais regardez de l'autre côté. Chez les Maïkari, chez les francs-maçons, les gens qui adorent les autres dieux, là, ils sont pleins comme ça, ils sont dans les administrations. Directeurs de temps, PDG, PCA, c'est eux seulement qui sont partout. Et quand ils vont se réunir eux, là, ils sont entre eux. Ils veulent faire projet. Ils font. Quand les Rosicristiens se réunissent ici, là, quand leur maître vient des États-Unis, il faut aller faire. Tu vois les voitures garées. Ils donnent travail aux gens à l'église. Et puis ils te disent, tu es Rosicristien forcé. Il y a une dame qui est venue me voir ici. Elle dit, son patron lui a dit, si tu n'es pas Rosicristienne, je t'arrache le travail. Elle dit, elle est obligée d'être Rosicristienne. J'ai dit, non, comment tu peux. Elle dit, elle aime le Seigneur, mais elle est obligée. Parce que quand elle ne va pas deux fois à la réunion, le patron lui dit, le lendemain, je n'étais pas vu. Ils travaillent pour faire avancer leur royaume. Ils sont en mission. C'est les chrétiens seulement qui ne savent pas qu'ils sont en mission sur terre. Et qui sont dans le bureau, c'est eux seuls. Moi, mon cousin, ma cousine, mon frère et mon fils. Dieu veut te révéler. Dis à quelqu'un, Dieu veut te révéler. Maintenant, nous allons lire un passage que nous allons commenter. Josué 1, tout le monde, Josué 1, versets 1 à 9. Écoutez bien ici. On a l'habitude de lire ce passage. Josué 1, versets 1 à 9. Qu'est-ce qui est dit?
Après la mort de Moïse,
oui,
serviteur de l'Éternel,
serviteur de l'Éternel,
l'Éternel dit à Josué,
l'Éternel dit à Josué,
fils de Noun,
fils de Noun,
serviteur de Moïse,
serviteur de Moïse,
Moïse, mon serviteur est mort.
Oui.
Maintenant, lève-toi.
Lève-toi.
Passe ce Jourdain.
Passe ce Jourdain.
Toi et tout ce peuple.
Toi et tout ce peuple.
Entrez dans le pays que je donne aux enfants d'Israël.
Oui.
Tout lieu que foulera la plante de votre pied.
Oui.
Je vous le donne comme je l'ai dit à Moïse.
Comme il t'a dit que Dieu, vous avez remarqué dans la Bible, il fait toujours ça. Il dit au fils. Il rappelle au fils les promesses qu'il a fait au père. Parce qu'en réalité, Dieu s'attend à ce que naturellement, les pères transmettent leur foi au fils. Donc, il va dire toujours au fils, comme je l'ai dit à ton père. Il a dit à Isaac, comme je l'ai dit à Abraham. Il a dit à Jacob, comme je l'ai dit à Isaac. Dieu est un Dieu qui passe de génération en génération. Nous n'avons pas le droit de sacrifier les générations qui viennent après nous. Oui, continue.
Vous aurez pour territoire,
oui,
depuis le désert et le Liban,
oui,
jusqu'au grand fleuve, le fleuve de l'Euphrate, tout le pays des Haïtiens,
oui,
et jusqu'à la grande mer vers le soleil couchant. Nul ne tiendra devant toi tant que tu vivras.
Oui, va au verset 6.
Fortifie-toi.
Fortifie-toi
et prends courage.
Et prends courage.
Car c'est toi qui mettras ce peuple en possession du pays
oui.
que j'ai juré à leur père de leur donner. Fortifie-toi seulement et aie bon courage en agissant fidèlement selon toute la loi que Moïse, mon serviteur, t'a prescrite. Ne t'en détourne ni à droite ni à gauche afin de réussir dans tout ce que tu entreprendras. Que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche. Médite-le jour et nuit pour agir fidèlement.
Pour agir
fidèlement selon tout ce qui est écrit. Car c'est alors que tu auras du succès dans tes entreprises.
Amen. Continue.
C'est alors que tu réussiras.
Amen. Regardez-moi ici. Verset 6 à verset 9. Tu peux t'asseoir. Oui. Dieu dit à Josué, il dit fortifie-toi. Est-ce qu'on peut dire comment fortifie-toi? Maintenant, je veux que tu comptes le nombre de fortifie-toi à partir du verset 6 là. Compte. Compte le nombre de fortifie-toi. Il y a combien de fois il a dit ça? Fortifie-toi. Lis bien. Fortifie-toi.
Oui.
Non, non. Fortifie-toi. Combien de fois? Relis à partir du verset 6. On va compter ensemble.
Fortifie-toi.
Une fois.
Et prends courage, car c'est toi qui mettras ce peuple en possession du pays que j'ai juré à leur père.
Oui.
Fortifie-toi seulement.
Deux fois.
Et aie bon courage en agissant fidèlement selon toute la loi que Moïse, mon serviteur, t'a prescrite, ne t'en détourne ni à droite ni à gauche, afin de réussir dans tout ce que tu entreprendras.
Oui.
Que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche, médite-le jour et nuit pour agir fidèlement selon tout ce qui est écrit, car c'est alors que tu auras du succès dans tes entreprises, c'est alors que tu réussiras. Ne t'ai-je pas donné cet ordre? Fortifie-toi et prends courage. Ne t'effraie point et ne t'épouvante point, car l'Éternel, ton Dieu, est avec toi dans tout ce que tu entreprendras.
Amen. Il y a toi, fortifie-toi. Il y a combien, ne te ferai point? Un. N'est-ce pas? Une fois. Maintenant, agis. Il y a combien de fois? Agis, il y a deux. Alléluia. Maintenant, je fais le point ici. Tu peux t'asseoir. Regardez. Dieu appelle Josué et Dieu dit à Josué, fortifie-toi. Le mot fortifie-toi ici veut dire sois encouragé, sois fort. Mais il dit sois fort. Donc, le verbe sois fort. Dieu veut qu'il soit quelque chose, qu'il soit fort. Donc, il dit, sois fort, sois fort, sois fort. Et puis, il dit, une dernière fois, il dit, ne t'effraie pas. Donc, en d'autres termes, ne t'effraie pas là, on peut mettre dans le même groupe que sois fort. Parce que c'est le contraire, il ne faut pas avoir peur, sois fort. En fait, il dit, ne t'effraie pas, c'est une façon de dire, sois fort. Donc, il dit quatre fois à Josué, sois fort. Trois fois, il dit directement. La dernière fois, il dit de façon, il donne l'opposé de ce qu'il souhaite que Josué soit. Sois fort. Et maintenant, il poursuit pour dire, pour agir fidèlement selon ce que je t'ai dit. Et il dit deux fois agir. En d'autres termes, Dieu s'attend d'abord à ce que Josué soit quelque chose avant de faire quelque chose. Parce qu'il parle de l'agissement. Lorsqu'il parle d'agir, il parle simplement, il dit deux fois. Tu peux relire, il dit fortifie-toi. Regardez il bien
dit,
la phrase.
Oui. Il dit fortifie-toi seulement et aie bon courage en agissant fidèlement.
En agissant, ça dit fortifie-toi. Sois fort avant d'agir. Sois avant. Merci. Donc ici, nous voyons que Dieu donc instruit à Josué d'être d'abord, avant de faire. Est-ce qu'on peut dire être avant de faire? En d'autres termes, l'impact que la vie d'un homme a sur sa société, sur sa génération, sur ses voisins, est plus lié à ce qu'il est que ce qu'il fait. C'est très important ce point. Amen. Parce que beaucoup de gens pensent que c'est ce qu'on fait qui nous donne de l'influence. Non, mais c'est ce que nous d'abord nous sommes. Donc la question ici, c'est que dois-je ou que dois-je devenir pour que la volonté ou ce que Dieu veut que je sois paraisse. Non pas que dois-je faire. Et une véritable vie d'impact, c'est-à-dire d'influence, commence par soi. Dis à ton frère, soi. Dieu veut qu'on soit d'abord. Parce que quelqu'un ne peut pas donner la lumière s'il n'est pas la lumière lui-même. Comment tu vas donner lumière alors que tu n'es même pas lumière? Voilà pourquoi la Bible est le vrai problème de l'église, c'est ça. C'est que l'église a la bonne intention de vouloir influencer, de vouloir envoyer les gens dans l'église, de vouloir aller chercher les âmes. Mais en réalité, les gens là-même, ils ne sont même pas ce qu'ils disent. Donc il y a un problème. Et voilà pourquoi il faut commencer au commencement en amenant les chrétiens à comprendre que quand Dieu t'envoie pour que ta vie soit une vie d'impact, cela commence par soi avant de faire. Il dit à Josué, sois, ensuite tu feras. Mais si tu fais avant d'être, ça ne marchera pas. Je ne sais pas ce que Dieu t'a appelé à faire. Dieu a une destinée pour toi, mais la question ce n'est pas que dois-je faire, que dois-je être. Est-ce que tu peux poser cette question-là ce matin? Seigneur, que dois-je être pour que ce que tu as décidé dans ma vie soit? Répète cette question-là. Si tu as compris ça, tout changera autour de toi. Que dois-je être pour que ce que tu as décidé pour moi, soit. Maintenant, il dit à Josué, sois fort. Est-ce qu'on peut dire sois fort? Mais qu'est-ce que Dieu vise quand il dit à Josué, sois fort? La force ici n'est pas forcément la force physique. Hein? Revenons à un passage dans la Bible, Proverbe 24, verset 5. Proverbe 24, verset 5, oui, vas-y. Qu'est-ce qu'il dit?
Un homme sage est plein de force, et celui qui a de la science affermit sa vigueur.
On répète ensemble.
Un homme sage est plein de force, et celui qui a de la science affermit sa vigueur.
Un homme sage est plein de force. En d'autres termes, ce que Dieu demande à Josué ici, quand il dit « sois fort », Dieu demande à Josué d'épouser la sagesse. Parce qu'on nous dit « un homme sage est fort ». Donc la sagesse communique la force. Donc la force vient de la sagesse. Ce qu'il dit à Josué, pour avoir une vie d'impact, si tu veux que ta vie soit une vie qui influence, qui fédère, qui touche et qui renvoie les gens à Dieu, numéro un, tout le monde dit numéro 1. Sois fort. Épouse la sagesse. La sagesse communique la force. Lis-moi Ecclésiaste 10, 10. Ecclésiaste 10, 10, oui. Dis avec moi, la sagesse a l'avantage du succès. Ça veut dire, la sagesse vous donnera ou vous enseignera le comment, le quand des choses. Et lorsqu'un homme sait le quand et le comment des choses, il prend de l'avance sur sa génération. Et l'un des gros problèmes que l'Église a, les chrétiens ont, c'est ça. Ils veulent faire ce que Dieu leur demande de faire, mais peu sont ceux qui ont en réalité la sagesse. Est-ce que vous savez que sans la sagesse, tu ne peux même pas convertir deux mouches? Parce que vous savez, ce n'est pas... Vous savez, même dans la transmission de la foi, transmettre la foi va nécessiter que tu aies de la sagesse. Parce que pour tout individu qui va se présenter devant toi ou qui cherche dans ton environnement, les stratégies diffèrent. Il y a des gens, tu n'auras pas besoin. Vous savez, l'évangélisation classique que les gens aiment faire, ils viennent. Bonjour, Jésus t'aime. Jésus t'aime. Je voulais te dire simplement qu'il est mort pour toi, pour que tu sois sauvé. Vraiment, si tu ne veux pas aller en enfer, je veux te parler. Ça, c'est pas. Ça, c'est des choses qui peuvent sauver certaines personnes, mais qui ne peuvent pas sauver tout le monde. Tu vas être face à des gens, ce ne sera pas Jésus t'aime. Mais tu vas commencer par économie d'abord. C'est en expliquant l'économie là que le gars va dire, mais ce type-là, s'il sait ce que je sais là, il peut continuer encore pour voir un peu ce qu'il a derrière sa pensée. Donc, tu as besoin que Dieu te communique la sagesse afin que partout où tu te trouves, que la sagesse parle en ta faveur, te communique la force, te donne de la capacité, te bâtisse. Trop de chrétiens sont vides. Mais quand on est vide. Hein? Voilà pourquoi quand tu dis aux gens, s'il vous plaît, on va aller, il faut parler aux gens, il faut aller parler de Jésus. Ils vont te dire oui. Mais en réalité, quand ils sortent de l'église, ils ne peuvent plus rien faire. Parce qu'il leur manque la force. Ils n'ont pas la sagesse nécessaire. Ils ne savent pas comment. Le comment, Dieu va te communiquer le comment. Tu seras dans ton environnement où Dieu t'a planté. Dieu va te donner les idées qu'il faut pour amener les gens à la connaissance de Dieu en masse. Tu ne voulais même pas faire cellule, tu as fait cellule forcée. Tellement il y a des gens, tellement ton quartier est converti. Maintenant, tu es obligé de trouver un lieu de rassemblement pour leur parler de temps en temps. Parce qu'ils sont tous convertis autour de toi. Mais nous sommes dans nos quartiers, nous sommes seuls convertis. Dis-moi la première chose, il te faut la force. Soit Dieu va te communiquer cette sagesse. Parce que regarde souvent, je vois souvent des gens dans les rues, ils ont des mégaphones. C'est des bonnes initiatives. Ça, là, ça peut sauver qui? Même les pasteurs, même les fidèles chrétiens qui passent, qui les voient, là, ils montent leur vite. Ils montent. Il est seul à l'arrêt de bus. Dans le bruit des bacas et tout ça. On n'entend pas. Hey, Jésus t'aime. Jésus t'aime. Oh, Dieu va te sauver. Dieu va te. À un moment donné, les gens ne comprennent rien. Donc, ils créent plus de problèmes qu'ils n'en. Il crie sur les gens. Les gens sont en train de payer leur banane braisée. Lui, il monte sur son baka. Mais tu cries seul. Oui, Jésus va venir. Frère, convertissez-vous. Vous irez en enfer. Un jour, j'ai arrêté. Et il dit, mon ami, arrête tout ça. Il dit, pourquoi je lui dis d'arrêter? Il est en train de servir Dieu. Je lui dis, non, mais là, non seulement personne ne t'écoute. Et puis deux, tout ce que je suis depuis que je suis arrêté là, je t'écoute là. La seule chose que tu dis, Dieu va vous, l'enfer c'est bientôt, repentez-vous comme au jour de Noé. Je vous le dis, je suis la voix qui crie dans le désert. Il joue les victimes. J'ai dit, mon ami, calme-toi. Il dit non, de le laisser, il va faire. C'est comme ça que Dieu lui a dit. Il dit, ok, si c'est ce que Dieu t'a dit, vas-y. Si les gens peuvent t'écouter un peu, c'est bon. Mais personne ne t'écoute. Tu ne vois pas que tu es en train de perdre ton temps. Et au contraire, tu salis le nom des gens. Tu dis, voilà les gens, les illuminés qui vont dans les églises, ils vont dire Alléluia, Alléluia. C'est vous qui nous fatiguez et qui rendez le travail difficile. Calme-toi, demande à Dieu, il te dira ce qu'il faut faire. Dis amen. Ces mêmes gens-là, dans un autre environnement, ils seront dociles. C'est pas quand ils cherchent leur bac, ils ne vont pas t'écouter. Je dis, la sagesse est importante. Va les trouver quelque part, dans un environnement, tu dis truc, dans un hôtel quelque part, et tu connais quelqu'un qui le connaît. Il va venir. C'est pourquoi vous êtes important dans la stratégie du Seigneur. Parce qu'il y a des gens que Dieu ne peut pas toucher sans vous. Mais regardez aujourd'hui. Est-ce que vous savez que toi, tu connais quelqu'un qui connaît quelqu'un qui connaît quelqu'un qui va finir par connaître la personne. Mais toi là, sans toi, moi, je ne peux rien faire. Je ne peux jamais toucher cette personne-là si je ne te touche pas. Parce que toi, tu connais, tu peux dire à la personne, hey, je te demande de venir avec moi. Il va venir. Pourquoi? Parce que ta voix porte dans sa vie. Donc, vous êtes important. Et si, en tant qu'église, vous ne comprenez pas que vous êtes d'abord la matière première que Dieu veut utiliser pour bâtir son royaume, tout sera à côté. Il dit à Josué, sois, parce que Josué devait avoir une vie d'impact. Plusieurs devaient aller après lui. Mais il dit, avant toute chose, sois fort, avant de faire. Aide de la sagesse. Aide de la profondeur. Est-ce que quelqu'un peut dire amen? Amen. Deuxième élément important ici. Il dit, prends courage. Deuxième élément, c'est le courage. Dis avec moi le courage. Pour aller parler ou parler au risque de ta vie et de tes intérêts, il te faut beaucoup de courage. Le courage est crucial pour une vie d'impact. Là où il n'y a pas de courage, il n'y a pas de vie d'impact. Le courage est la réponse à tous les défis, quelle que soit leur taille et leur durée. Un homme qui n'est pas courageux est un homme qui ne pourra pas faire face à des défis d'un certain niveau ou qui ne pourra pas faire face à des défis d'une certaine durée. Le courage est ce qui établit la transition entre ce que tu es et ce que tu seras demain. Si tu es un homme qui baisse les bras facilement, il y a des positions que tu n'auras jamais dans ta vie. Le courage. Il dit, prends courage. Le courage. Tout le monde dit avec moi le courage. Lis-moi 1 Samuel 30, verset 6. 1 Samuel 30, verset 6 dit quoi? Ça parle d'un homme qui a été un homme courageux. Oui?
David fut dans une grande angoisse. Mm-hmm. Car le peuple parlait de le lapider. Mm-hmm. Parce que tous avaient de l'amertume.
Mm-hmm. Mm-hmm.
Chacun à cause de ses fils et de ses filles.
Mm-hmm.
Mais David reprit courage en s'appuyant sur l'Éternel, son Dieu.
Amen. Voilà cette histoire de David. David était un homme courageux. Ça veut dire, David s'est retrouvé dans une situation où les gens l'en voulaient. Les gens voulaient le lapider. Mais la Bible dit, David reprit courage. Là où vous n'êtes pas courageux, il y a des choses que vous ne pouvez pas faire pour Dieu. Et votre vie, votre impact sera minimal. Vous savez, quand tu vois un homme qui a impacté jusqu'à un certain niveau, c'est un homme courageux. Parce que impacter va nécessiter que vous preniez des risques. Si vous n'êtes pas prêt à prendre des risques, votre vie va rester telle qu'elle est. Elle sera dans votre salon, dans votre cuisine, un peu au travail. Vous entrez à la maison. Vous allez vivre une vie d'anonymat. Vous allez retourner vers le Seigneur dans l'anonymat. Si c'est ce que vous voulez, il n'y a pas de problème. Mais je tiens à vous dire que toute vie qui n'impacte pas jusqu'à un certain niveau est une vie d'échec. Parce que Dieu nous a sauvés pour sauver. Est-ce qu'on peut dire amen?
Amen?
Mais pour aller jusqu'à un certain niveau. Mais regardez, regardez. Parce que c'est facile. Ce n'est pas facile de faire l'œuvre de Dieu. Hein? Si quelqu'un te dit c'est facile, il ment. L'œuvre de Dieu n'est pas, je veux dire, l'œuvre de Dieu n'est pas difficile en soi. Mais la difficulté se trouve à quel niveau? Tu as besoin de courage. Dernièrement, on était à Addis Abeba avec les pasteurs. J'ai regardé les Tudors, les au concours, tous ces hommes de Dieu d'un certain niveau-là. Et puis j'avais un peu comme de la pitié. C'est des voyageurs fous. Mais quand je monte à chaque fois dans l'avion et je vois le danger attaché, tu sais, à chaque fois que tu mets pied dans l'avion comme ça, là, c'est Dieu et toi seul. Et quand je vois le nombre de risques, si tu n'es pas prêt à risquer ta vie,
Parce que beaucoup de gens pensent que c'est un luxe de tout le temps dans les avions. Ce n'est pas un luxe. Ouais, luxe. Même si on te met en salon d'honneur, souvent ce n'est pas facile. Le fil d'attente ici, il faut se lever à 6 heures du matin. Quand on vole à 8 heures, il y a beaucoup de contraintes. Il faut aller dans les nations, parler de Jésus. Tu es obligé de parler de Jésus. Les gens vont t'inviter. Tu ne peux pas dire je ne veux pas, je ne veux pas toute ma vie et rester dans ton église. Non. Nous ne partissons pas des maisons. Nous partissons le corps. Donc il va arriver des moments où tu es obligé de partir, de parler de Jésus, d'aller dans les villages, de dormir quelque part où tu ne voulais même pas dormir. Donc je veux dire, si réellement Jésus t'a sauvé et que tu as quelque chose dans ton cœur pour ce Dieu-là, il te faut du courage. Ça ne sera pas facile. Tu n'es pas un homme courageux. Tu vas abandonner quelque part et tu vas tomber dans cette facilité-là. Dans tous les cas, je suis sauvé, ma fille est sauvée, mon cousin est sauvé, c'est suffisant. Mais quand tu tombes dans cette facilité-là également, il y a tes bénédictions qui vont commencer à s'effriter. Depuis que tu es né de nouveau, combien de gens qui ont été sauvés au travers de ta vie? Lève ta main et dis-moi. Combien? Plusieurs là, c'est vague. Plusieurs, ok. Oui, combien de gens? Tu peux les voir comme ça, ils sont dedans même, ils sont dans la fête de Dieu. Ils sont là devant toi. Bon, ici, depuis que tu es là à l'église, ici, montre-moi, lève-toi et puis montre-moi. Oui, mais ça c'est un beau témoignage. Oui. Les gens que tu as convertis sont où? Les gens qui ont quitté le monde, qui t'ont suivi. Parce qu'il y a deux choses. Tu sais, quand les gens voient ton Dieu, là, ils te suivent. Mais ils ne laissent pas ton Dieu pour aller ailleurs. Ils te suivent. Il faut du courage. Dis à ton frère, il te faut du courage. Ce n'est pas souvent facile de parler de Jésus. Il y a beaucoup d'obstacles. Les gens vont te mépriser. Mais il te faut du courage. Et ce matin, je viens défier quelqu'un pour lui dire, si Dieu vous a sauvé, ne fermez plus votre bouche. Même le courage pour faire asseoir tes propres enfants. Combien de gens ici qui ont prêcher la bonne nouvelle à leurs enfants. Parce qu'il y a des gens qui pensent que les enfants naissent de nouveau quand ils sont dans la maison des pasteurs. Ils naissent de nouveau comme ça un coup. On dit, ils sont dans ma maison, ils viennent à l'église. Je vous dis, les petits que vous voyez là-bas, plein là, ils viennent à l'église. Il y a plein qui ne sont pas nés de nouveau. Hein? Tu prends pas la nouvelle naissance n'est pas automatique. Tu ne prends pas quelqu'un pour lui dire, mon fils, ça va? Il dit oui. Tu connais Jésus? Il dit oui. Bon, l'histoire c'est comme ça. Jésus est mort, il dit, ressuscité. Est-ce que tu veux l'accepter? Il dit oui. Ferme tes yeux, on va prier. La prière du salut, répète après moi. Tu dois le faire pour tes enfants. Pour qu'ils naissent de nouveau. Et chaque fois que tu viens à l'église, tu les appelles, tu leur donnes 50 francs, le plus petit, 25, allez. Ça c'est offrande. C'est compris, non? Oui papa, c'est compris. Offrande, il regarde. Il dit, c'est pour Dieu. Il veut aller payer Bissap à la fin du culte. Il n'est pas question de payer Bissap avec, c'est pour Dieu. Il dit oui. Et tu veilles que quand on fait les offrandes là, qu'ils viennent payer leurs offrandes. Le jour où tu leur as donné 1000 francs, tu leur dis, dans 1000 francs là, il y a 100 francs qui appartient à Dieu. Tu as compris? Ça, on appelle ça dîme. Parce que si tu n'enseignes pas aux gens à faire les choses, ils ne vont pas le faire. Un pasteur disait un jour, il dit lui là, il a appris avec son père a servi Dieu. Qu'il n'est pas aujourd'hui ce qu'il est là. Par hasard, il a appris, son père était sur sa tête comme ça, matin, midi, soir. Quand il est à l'église, son père assis là, et puis son père le regarde. Tu loues pas Dieu? Il s'élève. Enlève tes mains dans ta poche. Quand on loue Dieu, on ne met pas les mains dans la poche. Tu acclames pas? Jusqu'à ce que... J'ai dit... Et son père lui a dit, quand il demande l'argent à son père lui donne,
Et son père lui dit, tu viens me payer la dîme. Son père lui donne. Et il vient payer la dîme à son père. Donc son père vérifie. Son père sait combien il a donné à son fils. Tu ne peux pas couper en deux, il sait. Donc le papa était sur sa tête comme ça jusqu'aujourd'hui. Il est devenu un homme affermi, réglo dans l'affaire de Dieu. Frère, c'est des choses qu'on apprend. Voilà pourquoi quand les gens viennent à l'église, là, il ne faut pas les laisser comme ça. C'est pourquoi on parle de cours de base. Des cours pour leur donner les rudiments, leur expliquer. Parce que vous savez, quand tu prends un petit chiot quelque part, tu l'attrapes à Gonzagueville, tu l'envoies à Cocody ici, si tu ne l'attaches pas, il va ressortir, il cherche la route. Parce que ce n'est pas son environnement ici. Même s'il va à Bobo, ce n'est pas son problème. Dans tous les cas, il n'est pas chez lui ici. Il va sortir pour chercher la route, pour aller quelque part. Mais si tu l'attaches pendant un mois, dès que tu le détaches, il ne bouge plus. Pourquoi? Parce qu'il s'est adapté de nouveau à l'environnement. Voilà pourquoi les cours de base, là, c'est une façon de les attacher. Dans un premier temps, quand ils viennent là, frère, même s'il a aimé le message jusqu'à, il a aimé l'environnement, ça ne change rien. C'est qui en lui là? Est-ce qu'il le dirige? Il va retourner carrément dimanche matin prochain, la dimanche prochain, quand tu vas l'appeler, il va dire, je suis au football, mes amis. Ils m'ont appelé pour aller jouer au Maracana. Tu dis, mais non, mais dimanche dernier, je t'ai dit, tu as aimé le culte, non? Il dit, oui, mais je devais aller jouer avec mes amis. Parce que c'est comme ça il est. Donc, il faut suivre les gens. Il faut leur parler. Il faut insister jusqu'à ce que la personne se convertisse. Toi-même qui es là, tu sais comment tu te comportais avant. Quand tu venais à l'église, tu ne venais pas. Tu venais une fois chaque tu venais Noël et 31, et puis après, tu as ajouté un peu quelques dimanches. Mais ton sommeil dimanche, on ne peut pas jouer avec. Ou bien aller jouer Maracana ou faire du sport. Dis, pasteur, ça, ce n'est pas négociable. Il n'y a pas un culte vers 21h là. Parce que les hommes aiment tout ce qui ne leur coûte rien. Je vous dis, les hommes aiment tout ce qui ne leur coûte rien. Quand tu as fait un culte même, on dit, pasteur, envoie ça sur satellite. Je suis couché dans mon lit, je mange pop-corn et puis je regarde. Pasteur, ils disent, mais frère, c'est pourquoi aujourd'hui, même les histoires d'Internet, on est obligé de faire là. Mais je te dis, on est obligé, mais dans tous les cas, les gens ne veulent plus payer le prix pour gagner Dieu. Si Dieu peut être facile, quelque part, ils vont le faire. Mais se lever matin, s'habiller, porter costume, venir s'asseoir à l'église, c'est trop compliqué. C'est pourquoi il y a beaucoup d'eux qui ne viennent pas à l'église. Ils viennent aujourd'hui, ils ne viennent pas dimanche, ils ne sont pas constants. Parce que c'est un effort qu'ils font. Ils font des efforts. Mais à un moment donné, ça ne doit plus être des efforts. L'effort, c'est quand tu restes à la maison, là, c'est ça même vraiment qui est effort. Je vous dis, l'homme est perdu par nature. Si l'église ne va pas pour rééduquer ces gens-là, ils ne changeront pas. Ils ne vont même pas changer. On va donner des belles paroles, ils vont voir. Ils vont aimer, ils vont apprécier. Pour dire, quelle bonne parole. Et puis c'est tout. Il va retourner, son cœur va le reconduire quelque part. Troisième élément important ici, c'est l'humilité. Tout le monde est avec moi, humilité. L'humilité n'est pas ce que vous faites. L'humilité, c'est ce que vous êtes. C'est une attitude. Vous avez besoin d'humilité. Sans humilité, votre vie d'impact sera négligeable. Aucun homme ne vous suivra si vous ne possédez pas un certain nombre de vertus, comme l'humilité. Maintenant, si tu veux savoir si tu es humble, examine tes propres fruits, tu sauras si tu es humble. La Bible dit, vous les reconnaîtrez par leur. Beaucoup de gens disent, mais pasteur, comment savoir si je suis humble? Regarde tes propres fruits, examine tes fruits. Par tes fruits, tu sauras si tu es humble ou tu es orgueilleux. Par les fruits que tu portes. Parce que l'une des choses que l'humilité fait, l'orgueil fait, l'orgueil, c'est-à-dire un homme qui n'est pas humble est un homme à qui Dieu résiste. Si tu vois, parce qu'il y a beaucoup de gens, ils pensent que, je te dis, il y a beaucoup de choses que tu cherches, tu ne trouves pas là. C'est Dieu qui se tient devant toi. L'une des caractéristiques pour savoir qu'un homme est orgueilleux, c'est un homme qui peut
quand il analyse sa vie, il peut regarder, quand il regarde sa vie, un an, deux ans, quand il cherche la main de Dieu, il ne voit pas.
On lui dit, rends un témoignage. Il dit, quel témoignage? Dieu, moi je ne sais pas. Hein? Pas parce qu'il n'a pas de désir. Il a des désirs. Pas parce qu'il ne veut pas que Dieu fasse des choses. Il a des choses. Mais en réalité, l'orgueil est subtil. Dieu résiste aux orgueilleux. Et quand Dieu te résiste là, il n'y a pas de prière qu'on peut faire. Parce que c'est le patron même qui est là. Je sais, si c'est un démon, nous on peut négocier. Quitte là. Mais quand c'est le patron, tu sais, on dit, mon cher, c'est le patron qui est là. Et quand le patron te bloque là, mon frère, tu vas monter, tu vas descendre. Ta vie n'avance pas d'un iota. Et ça, c'est un fruit. C'est un fruit qui doit également te révéler que il faut que tu revoies ta façon de faire certaines choses, ton attitude. Parce que beaucoup de gens sont orgueilleux, mais ils ne savent même pas qu'ils sont orgueilleux. Et sans humilité, aucun homme va te suivre. Mais tu vois, des gens, ils sont bons chrétiens, ils sont là, ils sont dans la maison, ils sont seuls. Bon chrétien, mais il est seul, dans sa famille. Il n'y a même pas une mouche sauvée. Il est là, tous ses frères sont à gauche. Il est quelque part, personne ne le suit. Ah si, il est orgueilleux. Qui a envie de suivre un orgueilleux? Personne. Personne n'a envie de suivre un orgueilleux. Lis-moi Matthieu 5, verset 5. Oui.
Heureux les débonnaires, car ils hériteront la terre.
Heureux les débonnaires. Les débonnaires, c'est les hommes humbles. On dit ils hériteront la terre. Jacques 4, verset 6. Oui. Jacques 4, 6 dit quoi? Mais il fait grâce aux humbles. Il résiste. Philippiens 2, verset 5 à 9. Philippiens 2, verset 5 à 9, dit quoi? L'humilité.
Ayez en vous les sentiments qui étaient en Jésus-Christ.
Qui étaient en Jésus-Christ.
Lequel, existant en forme de Dieu, mais s'est dépouillé lui-même en prenant une forme de serviteur, en devenant semblable aux hommes,
oui,
et ayant paru comme un simple homme.
Amen. Vous connaissez le passage. Regardez quelque chose que je vais vous dire. Vous savez, l'humilité dans sa foi est trop importante. Parce que vous savez, il y a un type d'évangile qu'on a souvent enseigné. Tu es un fils de Dieu, tu es un héritier. Souvent, c'est un couteau à double tranchant. Parce qu'il faut pouvoir amener les gens à avoir l'assurance de leur salut, à savoir qui ils sont en Christ, sans en faire d'eux des orgueilleux. Et souvent, on n'a pas bien balisé, ou beaucoup d'enseignants de la parole de Dieu n'ont pas bien balisé, de telle sorte que ce type d'enseignement-là a amené certains a dit, je suis un enfant de Dieu, moi je ne peux pas échouer, je suis, Dieu avec moi, non mais je vais réussir, je suis ce que je suis, Dieu est mon Père. Donc, ces enseignements-là, c'est vrai, ça te révèle ton identité, ça te donne de savoir qui tu es en Christ et la position que tu occupes, mais en même temps que ça te donne d'avoir cette position et cette prise de conscience de qui tu es, en même temps, ils n'ont pas su mettre la ligne entre jusqu'à où un homme peut savoir qui il est et quelle paille ne doit pas franchir pour devenir un homme orgueilleux? Entre l'assurance et l'orgueil. Voilà. Les gens n'ont pas su faire. Donc, beaucoup de gens manifestent l'orgueil. Ils disent c'est l'assurance. Tu vois des gens? Pasteur, dans tous les cas, je veux te dire, Dieu là, il est avec moi. Je m'en sortirai. Il n'y a pas quelqu'un. Ils n'ont qu'à faire ce qu'ils veulent. Ils prient. Je suis Dieu. Mais ce n'est pas des mauvaises paroles, il dit. Mais derrière, il y a quelque chose. L'esprit qui est derrière n'est pas bon.
Je vais m'en sortir. Je n'ai pas besoin forcément que quelqu'un fasse pour moi. Et d'ailleurs, Dieu est mon Dieu est tout pour moi. Quand quelqu'un dit Dieu est tout pour lui, c'est vrai. Mais quelque part, il y a un problème. Parce que quelqu'un qui dit Dieu est tout pour moi, dans tous les cas, que les hommes fassent ou pas, ce n'est pas important, Dieu est tout pour moi. C'est une parole qui est vraie. Mais là où il y a l'orgueil, c'est qu'en réalité, Dieu est tout pour toi, mais il est tout au travers des hommes. Maintenant, si tu ne comprends pas ça dit ce lien-là, tu es perdu. Tu deviens orgueilleux. Oh, il n'a pas fait, on s'en fout. Dieu va faire. Non, on laisse Dieu va faire. Mais Dieu va faire comment? Il va descendre du ciel comme ça la nuit pour dire, je suis Dieu, din, 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 din. Non, c'est pas comme ça. C'est pas comme ça que ça va se passer. Il passera par un homme, toujours par un homme. Tu t'amènes. Donc l'humilité est importante. Un homme qui n'est pas humble est un homme qui ne peut pas fédérer. Donc son impact est minimisé. Et il y a trop de gens orgueilleux dans nos églises. Trop de pasteurs orgueilleux. L'orgueil, c'est visible. Quel homme orgueilleux, il est orgueilleux. Pour un petit truc, il faut se faire voir, il faut s'habiller pour se voir. Il faut voir tout le monde, pas tout le monde. Tout le monde voit qu'il est sapé, tout le monde voit qu'il est tard. Pour dire aussi, je suis quelqu'un. Je vous ai dit, je suis quelqu'un, je vous avais dit. Je vais faire ça pour montrer que moi là, je ne suis pas négligeable. L'orgueil précède la chute. L'orgueil précède la chute. Et je vous assure, si Dieu te résiste, on ne peut plus rien faire pour toi. Si Dieu te résiste. C'est pourquoi lorsqu'on vous dit parler de Jésus, ne dites pas non. Moi, une fois on a fait un truc de sortie d'évangélisation quelque part. Et donc il dit non, mais quand même, on va parler de ce problème dans la maison des gens. Pasteur, à notre âge là, j'ai dit à ton âge. À ton âge, tu ne vas pas dans la maison des gens. Non, pasteur. Hein? C'est trop sérieux. Pasteur, hein? les jeunes gens, allez-y. On dit évangélisation, les jeunes gens, allez-y. Non, on ne peut pas. Jésus t'aime, tout ça, allez parler. Pasteur, on est quand même d'un certain âge. Il faut voir les niveaux, hein, pasteur. Hein? C'est important. Donc, l'orgueil n'est pas une bonne chose. Et c'est ce qui empêche beaucoup de gens à rabaisser. Paul a dit quoi? Je me suis fait pauvre avec les pauvres. Il dit dans tous les milieux, je me suis identifié au milieu. Parce que vous savez, dans l'impact, il y a la notion d'identification. Tu ne peux jamais impacter quelqu'un en qui tu ne t'identifies pas. Amen. Ou qui ne s'identifie pas à toi. Qui ne se retrouve pas en toi, il ne va pas te suivre. Il ne va pas. Non, ce n'est pas possible. C'est pourquoi tous les grands leaders qui ont de l'impact et qui fédèrent et qui attirent les hommes, la foule, les gens se reconnaissent en eux. Pourquoi? Parce qu'ils ouvrent un pan de leur vie où tout le monde peut se dire, je me reconnais. Voilà pourquoi Dieu s'appelle Dieu d'Abraham. L'Abraham, le père de la foi. Dieu d'Isaac. Isaac, l'héritier. Le Dieu de Jacob. Jacob, le bandit. Donc, si tu es un homme de foi, tu es dedans. Tu es un héritier, tu es dedans. Tu es un bandit, tu es dedans. Alléluia. Il est le Dieu de la diversité. Tout le monde se retrouve en lui. Dites amen. Alléluia. Tout le monde se retrouve en lui. Tu es le bienvenu. Quel que soit ton statut, il est ton Dieu. Alléluia. C'est très important. Il est important que dans vos maisons, dans vos quartiers, les gens s'identifient à vous. Mais qu'on ne trouve pas des gens qui disent, le tonton là, il est trop compliqué. Ah non, on ne peut même pas l'approcher. On ne peut même pas le saluer. Attends, on peut pas la saluer. Même dans l'église, quand elle finit son culte, elle est partie. Elle dit, je ne vais pas saluer. Non, pour saluer les gens. Parce que la valeur d'une chose ne dépend pas de là où la chose se trouve. La valeur de la chose est dans la chose. Amen. Tu prends un billet de 500 euros, tu mets dans une poubelle. C'est la poubelle qui trouve la valeur. N'est-ce pas? Mais la poubelle ne dévalue pas l'euro. Donc, je vous dis, vous êtes important, c'est suffisant. Vous êtes important parce que Dieu vous a donné de l'importance. Maintenant, vous asseoir avec X, Y pour parler, c'est rien du tout ça. T'identifier à quelqu'un pour lui dire, non mon frère, ça va aller, Dieu va t'aider, regarde ma vie, regarde. Parce que quand quelqu'un voit ton niveau et que tu descends à son niveau, il est obligé de t'écouter. Frère, si comme tu es là, tu peux venir t'asseoir là où je suis, je te suis. Mais c'est clair, c'est comme ça que ça se passe. C'est très important d'avoir de l'humilité dans le travail que nous faisons si nous voulons avoir de l'impact réel. Est-ce que quelqu'un peut dire amen? Continuons rapidement. Quatrième point ici, c'est ayez de la fidélité. Soyez des disciples. C'est de ça que je veux parler. Proverbe 28, verset 20. Lis-moi ça. Proverbe 28, 20. Que dit Proverbe 28, 20? Quelqu'un qui a trouvé peut lire pour moi au doigt.
Proverbe 28, verset 20. Un homme fidèle est comblé de bénédictions.
Un homme fidèle est comblé de bénédictions. Hébreux 3, verset 2 à 3. Hébreux 3, verset 2 à 3. Merci. On va revenir sur ce verset. Regardez ici. Tu sais, dans l'affaire dans laquelle nous sommes là, est-ce que tout le monde me regarde? Personne ne va vous écouter si vous ne pratiquez pas vous-même ce que vous dites. Mais tu sais, la fidélité ici est importante. Quand je parle de fidèle, soyez des disciples, soyez fidèles. Regardez les musulmans. Quelle est la force de l'islam? Les musulmans croient dans ce qu'on leur dit. Quand on leur dit, tu prends une bombe, tu entres dans une foule. Quand tu arrives au paradis, si c'était trois femmes, c'est 50 femmes qui vont venir t'accueillir. Le plus de gens tu tues, le plus de gens vont venir t'accueillir, le plus de femmes vont venir te prendre. Ils croient ça dur comme fer. Ils pratiquent ça, ils mettent la bombe, et puis ils font une vidéo, et puis il est content, il dit, ça va au ciel bientôt. Et puis il rentre, il s'éclate. Mais les chrétiens sont les seuls qui ne croient même pas dans ce qu'ils vivent. Ou ils ne croient même pas dans la foi qu'ils professent. Je te dis, les chrétiens ne croient même pas la propre foi qu'ils professent. Ils s'en foutent. Ils s'en foutent. Qui va te suivre? Si ce que toi-même tu dis là, tu ne suis pas ça. Tu dis, je t'envoie à l'église. Vraiment mon pasteur là, ah viens, notre église est bien, hein? Et puis, on dit quelque chose. Le pasteur à la chair, il dit quelque chose. Le fidèle que tu as envoyé hier, là, il vient à la réunion de 16 heures. Et le boss même qui a dit, ah, mon pasteur, vraiment, viens, il n'est pas là. Le fidèle remarque ça une fois. Il dit, hein, tonton n'est pas venu. Prochainement, quand le pasteur parle, lui aussi, il ne vient pas. Mais il a tiré ça d'abord de la personne qui lui a dit, non, il faut venir, je te dis. Et lui, quand il ne vient pas là, le fidèle aussi, il ne vient plus. Vous voyez que beaucoup de gens sont ici là. C'est sûr, vous les anciens là, ils n'ont plus ce comportement là. Comportement de on dit ça, ils ne font pas, on fait comme ça, c'est vous. Parce que si vous n'êtes pas des modèles, ils ne le seront pas non plus. Ils ne le seront pas. Mais attendez, les gens ils observent. Et les gens évoluent par observation et puis ils rentrent dans l'ambiance. Dans toute structure où tu vas, les responsables donnent la direction. Et ceux qui viennent suivre, ils font comme tout le monde. Tu entres dans une boîte, c'est la façon dont tout le monde se comporte, te comporte. Si les gens entrent midi et deux, tu vois qu'ils se lèvent pour aller quelque part pour manger. Toi aussi, les midi et deux, sans même poser des questions, tu vas te lever parce que c'est permis, tu as vu les anciens faire. Tu dis, bon, ça peut aller. Mais si tu ne vois personne se lever entre midi et deux, tu auras même du mal à te lever, même si sur ton papier, on a mis midi et deux, pause. Tu as posé la question. Il y a pause ici, là. Parce que personne ne s'élève. Vous comprenez? Donc, le modèle, les gens ont besoin de modèle. Et la fidélité est quelque chose d'important. La fidélité dans la foi que vous professez. Vous ne pouvez pas évangéliser dans un quartier, dans votre maison. Et vous-même, vous êtes complètement à côté de la plaque. Ça ne marchera pas. Tu dis j'aime Dieu, tu n'aimes pas Dieu. Tu es dans la maison, tu fais parler avec tout le monde et tu veux que les gens te suivent à l'église dimanche. Ce n'est pas possible. Ils vont te dire je préfère être musulman. Ils vont te regarder pour te dire ça. Donc tu vois que beaucoup de gens sont devenus des échecs dans leur propre maison. Pourquoi? Parce que leur propre vie, au lieu que leur vie élève leur maison, leur vie a détruit leur propre maison. Ce n'est pas Dieu qui va venir rebâtir ta maison, hein? C'est toi. Et tu as la responsabilité de te repentir ce matin et de dire, Seigneur, j'ai cassé ma maison. On dit, l'insensé bâtit sa propre maison et détruit sa propre maison lui-même. Donc, la fidélité est importante. Jésus dit, je leur ai enseigné la foi que tu m'as donnée. Il dit, je leur ai enseigné tout ce que tu m'as donné, je leur ai transmis ça avec fidélité. Et ils ont vu ça dans ma vie. Ils m'ont vu faire, ils m'ont vu pratiquer, ils ont accepté. Pourquoi? Je l'ai dit, un homme prêche ce qu'il sait, mais il impacte ce qu'il est. Les gens t'observent dans ton quotidien. Si tu dis aux gens, bon écoutez, il faut travailler, il faut être des bosseurs. Et toi-même tu ne bosses pas. Tu es tout le temps en train de faire autre chose. Qui va bosser? Donc les gens copient. Quand ils voient que le leader est un bosseur, le leader est quelqu'un d'engagé, le leader est quelqu'un qui fait les choses comme il faut, les gens sont obligés de faire comme toi. Donc, dans une vie d'impact, la fidélité à tes convictions, c'est très important. Sinon, tu vas parler à qui? Qui va te suivre? Mon frère, Jésus guérit. Vous savez, Jésus est bon. Puis tu marches. Jésus guérit. Jésus est bon. On dit, et puis le gars que qui tu entends prêcher, Jésus guérit, il dit, tu as quoi? Oh, il y a des panaris qui me fatiguent là. il va commencer à faire. Ok. Tu pries où? Il va demander, tu pries où? Et regarde ton pied, il va dire, ok. Toi qui es censé m'aider là, c'est moi qui vais t'aider. Là où tu vas, je ne vais pas là-bas. Tu l'appelles, tu viens prier où? Je cherche quelqu'un d'autre qui se porte mieux. Vous comprenez? C'est ce que tu prêches aux gens. C'est-à-dire, ta vie est d'abord ce qui enseigne. C'est pourquoi je vous dis, quand vous venez à l'église, ne venez pas à l'église comme si vous allez au marché. Les gens de votre quartier vous regardent. Tu sors de la maison, tu es en tapette. T'en rends à l'église. Les voisins te regardent, ils disent, mais ils ne savent pas si tu vas au marché ou à l'église. Et quand ils te voient saper, ils se disent, tu vas où et puis tu es sapé comme ça? À l'église. Hein? Pour l'église aussi, tu te sapes comme ça? Déjà, il y a quelque chose qui se passe dans leur tête. Si elle peut se saper comme ça, c'est que l'église là, un jour, il va venir. Mais quand il va venir à toi là, il n'est pas question, il va aller fouiller en bas de son sac. Parce qu'il t'a toujours vu d'une certaine façon. Il ne peut pas te suivre n'importe comment. Quel modèle vous donnez autour de vous, dans la société? Parce que même, vous allez voir que même dans la maison, les enfants, ils copient leurs parents. Hein? La façon dont le papa s'habille. Observez les enfants. Observez les jeunes filles. Elles regardent toujours leur maman. Tu as une maman, tous ceux qui entrent dans la maison qui sortent sont jamais les mêmes. Attends, tu vas voir. Un tonton est venu aujourd'hui, son visage est clair. L'autre qui vient, son visage est noir. Après, l'autre qui vient, il est gonflé. L'autre qui vient, il est fâché. Tu vas voir. Elles vont faire la même chose. Parce que les gens, le modèle. Vous savez, la vie est faite de modèles. Il n'y a personne qui est né et puis, dans le vent de sa mère, là, il avait tous les repères. Non, nous tous ici, là, nous sommes ce que nous sommes parce qu'on a identifié des repères. Et c'est par rapport à ces repères-là qu'on avance. Dieu est le grand repère. Mais il a élevé certaines personnes jusqu'à un certain niveau. Aujourd'hui, moi, j'ai plein de gens que je ne connais même pas. Ils disent, t'es mon papa. Partout où je passe, ils sont des milliers, t'es mon papa. Pourquoi? Ils observent certaines choses et ils disent, ça là, on doit être comme lui. Ça te lance un défi d'être plus rigoureux, de faire présentation. Tu marches dans la rue. Souvent, tu es que pas, tu es en train de faire quelque chose, tu ne veux même pas. Bonjour, pasteur. Tu dis, ah bon, bonjour, pasteur. Tu me connais où? Il dit, ah, je te vois ici. Donc, vous voyez que c'est important d'être un modèle. Parce que ce que tu prêches là, les gens vont suivre ça. Mais ils veulent voir d'abord dans ta vie que ça marche.
C'est la première évangélisation. Est-ce que quelqu'un peut dire que c'est ta première évangélisation? Amen. Est-ce que quelqu'un peut dire amen? Ce que tu ne tolères pas, tes enfants ne vont pas tolérer. Ils savent, les enfants, ils savent. Ce que tu ne regardes pas là, quand ils vont arriver dessus, ils vont couper. Ils vont dire, papa n'aime, papa regarde pas. Parce qu'en fait, l'enfant est vite. Quand il vient au monde, il est vite. Il n'a rien. Et il est, son environnement immédiat, c'est vous. Donc c'est tout ce que vous mettez en lui là qui le fait. Maintenant, si vous ne mettez rien, dans tous les cas, la nature aura du vide. Donc, il va chercher à remplir le vide là. Mais il va remplir les copines de son école et qui vont lui dire, tu sais, c'est bon comme ça de faire comme ça. Tu vas venir voir ta fille en train de faire de ses maquillages. Mais qui t'a appris à faire ce maquillage-là? Qui t'a appris à t'habiller comme ça? Ta fille, tu vas aller dans les rayons de magasins, tu vas aller dans les magasins avec ta fille dans les rayons. Quand tu es dans un rayon ici, elle est dans un rayon ici. Tu es où? Non, je cherche quelque chose. Vos goûts vont... Quand tes goûts ou tes habitudes avec tes enfants commencent à prendre comme ça, c'est un échec qui commence à arriver. Tes enfants doivent te suivre. Ils doivent aimer ce que tu aimes. Ils n'ont pas de Dieu. Leur Dieu, c'est ton Dieu. Dis avec moi la fidélité. Regardez ici. Abraham... Lis-moi Galates 3, verset 9 dit quoi? Il dit quoi d'Abraham? Abraham a été un homme d'impact. Un homme qui a influencé sa génération. Sa foi a amené plusieurs à Dieu. Oui, Galates 3, verset 9. Oui.
De sorte que ceux qui croient sont bénis avec Abraham le croyant.
Ça, c'est quelle version? Prends-moi Luc second. C'est Luc second? Non, il y a une autre version. Là. Ici, lorsqu'on dit qu'il s'attache à la foi à Abraham, c'est-à-dire là où il parle de croyants, on parle de fidèles. Le fidèle Abraham. C'est-à-dire la foi d'Abraham. Abraham a eu de l'impact à cause de sa fidélité. Maintenant, lis-moi Hébreu, reprends-moi Hébreu 3, verset 2 que tu as lu. Qu'est-ce qui est dit de Moïse et de Jésus? Moïse également était un homme d'impact. Moïse, le plus grand prophète et le plus grand législateur qu'Israël n'a jamais connu. Oui.
Hébreu 3,
oui.
Jésus,
qui a été fidèle
à celui qu'il a établi,
comme le fut Moïse dans toute sa maison.
Il a été jugé digne d'une gloire autant supérieure à celle de Moïse que celui qui a construit une maison a plus d'honneur que la maison même.
Waouh, rien de comparaison là. Moïse, un législateur comme jamais Israël n'a connu. Moi, ma prière, c'est que, tu vois, tu arrives à un point dans ta vie où le jour où tu seras prêt à repartir, que ton nom devienne une référence. Ce matin, je regardais un truc sur une chaîne, et puis j'ai vu un pasteur qui est décédé il y a longtemps. Il était l'année dernière, pasteur Salvaraj, de Paris Saint-Chrétien. Et je l'ai vu prêcher. Et la première chose qui est venue dans mon esprit, les hommes que Dieu approuve ne meurent jamais. Il y a longtemps, il est pourri, et continue de sauver des âmes. Qu'est-ce qu'on va dire après toi? Qu'est-ce qu'on va dire? Non, c'est seulement, tu veux être anonyme? C'est une question. Qui veut être anonyme? Mais personne ne lève la main. Pourtant, tout ce que tu fais là, tu te comportes pour être un anonyme. Ton comportement est le comportement de quelqu'un qui a envie d'être un anonyme. Dieu n'a pas envie de faire de toi un anonyme, mais Dieu veut faire de toi un repère pour plusieurs. Dieu veut que ta vie parle à plusieurs, envoie plusieurs, À partir d'aujourd'hui, il faudrait pas. Il faut te sentir insulté quand les gens ne se convertissent pas autour de toi. Ce n'est pas. C'est-à-dire, quand les gens ne se convertissent pas autour de toi, ça doit t'inquiéter. C'est un signal pour te dire quelque chose ne va pas. Quelque chose ne va pas. Quelque chose ne va pas. Pourquoi? Parce que si tu deviens la lumière ne peut pas briller et personne ne voit. Pas possible. Tu es dans un milieu, personne ne veut te suivre. Il y a deux choses. Vous ne m'aimez pas. Ou bien quoi? Parce que je te dis, quand les gens, vous savez, les hommes, il n'y a pas un homme qui ne poursuit pas un intérêt. Les hommes, en général, courent après des intérêts. Recherchent quelque chose qui peut être bénéfique à leur vie. Il n'y a aucun homme qui est né d'une femme sur cette terre qui va voir en quelqu'un ses intérêts et puis va tourner le dos. Ça n'existe pas. Le vrai problème, c'est que les gens ne voient pas en nous leurs intérêts. Les gens ne voient pas dans l'église leurs intérêts. Qui vous a dit les gens du monde là, ils n'aiment pas Dieu? C'est faux. Tout le monde aime Dieu. Les gens aiment Dieu. Qui a envie d'aller en enfer? Personne. Mais quand les gens te voient là, est-ce qu'il y a quelque chose en toi qui les attire vers Dieu? Rien du tout. Je dis, quand quelqu'un voit que tu peux l'aider, il va te suivre. Quand quelqu'un voit, quand Ruth a vu Naomi, Ruth a vu au-delà de la vieille. Elle savait que Dieu venait de restaurer Bethléem. Elle savait que cette femme était dans une alliance. Elle dit, ton Dieu sera mon Dieu. La femme dit, mais je n'ai rien. Elle dit, non, ce n'est pas toi que je regarde. Mais derrière toi, il y a quelque chose qui peut m'aider. Mais justement, Naomi a été la connexion entre Ruth et Boaz. Je dis, les gens vont te suivre, même si tu es en caleçon. S'ils voient que tu as ce qu'il leur faut. Marche même en tapette si tu veux. Si le gars a su que tu as ce qu'il lui faut, il va te suivre. Mais quand vous voyez les gens dans les bureaux, là, quand on nomme quelqu'un ministre, tout le monde est devenu camarade. C'est parce que c'est intérêt d'abord. Son nez est comme ça, on dit, tu es beau monsieur le ministre. Avant, là, tout le monde l'insultait. Dès qu'il devient ministre, il devient beau, il devient ami de tout le monde. Parce que les gens savent que là, il y a contrat, il y a des trucs à gagner. Les gens cherchent des solutions. Est-ce que quelqu'un veut se présenter comme la solution? Est-ce que tu veux te présenter comme la solution ce matin? Amen. Dis amen plus fort. Amen. Revois-toi. Souvent les gens disent, non, on ne comprend pas, ce pasteur-là, les gens l'aiment trop. Les gens, je vous dis, le vrai problème, la vérité qui est là, quand tu l'as, tu l'as. Les gens, quand ils découvrent, ils vont venir. Ça va mettre le temps que ça va mettre, mais ils vont finir par venir. Parce que les gens cherchent là où ils se sentent bien, là où les choses marchent, là où ça va pour eux. Je prie que Dieu fasse de toi une solution. Amen. Moïse, regardez Moïse. On parle de lui jusqu'aujourd'hui. Il convertit, son nom convertit encore des gens. Il est au ciel, mais son nom convertit. Est-ce que ton histoire, après toi, va continuer à convertir les gens? Tes voisins au quartier, ils ont leurs problèmes. Tu dis, fermez les portes. Il y a des bruits. Fermez les portes. Tu peux aller là-bas. Bonjour voisin, je suis venu vous saluer. Faire comme ça, prier avec vous. Ça, c'est important. C'est des choses qu'on ne fait pas souvent. Mais ce n'est pas bon. Ce n'est pas bon. Parce qu'un jour, ces gens-là, il nous regarde, il nous observe, Trop d'individualisme. Les chrétiens sont devenus comme, je ne sais pas, je ne dirais même pas les blancs. Moi, ma maison, c'est tout. Lis-moi 1 Corinthiens 4, verset 2. On va terminer. 1 Corinthiens 4, verset 2, oui.
Sois
trouvé fidèle. Tu sais, vous savez, quand il parle de fidélité ici à ta croyance, je ne te demande pas d'être parfait. La perfection, nous allons vers la perfection. Je ne dirai pas que tu seras parfait demain matin. Ce n'est pas ce que je te demande.
Il y a un minimum de fidélité que tu dois à ce que tu reçois et vis-à-vis de ton Dieu. Il y a un minimum de fidélité. Qu'on se doit entre nous, en tant qu'église, en tant que maison. Quand on décide de faire quelque chose, il y a un minimum de fidélité. On dit, on va dans ce sens, nous tous, on va. On va faire comme... J'ai dit aux gens au premier culte ce matin, je leur ai dit, vous là, faites attention. Quand on dit quelque chose, vous ne faites pas. On fait comme ça, vous faites le contraire. Mais une église, c'est une direction, c'est une voie. C'est comme une école. Le maître vient et dit, bon, demain matin, il y a ça. On va faire salut aux couleurs. Tout le monde se met en truc, on dit, on va saluer aux couleurs. Mais si vous n'écoutez pas, comment on peut vous conduire vers le vert pâturage? Il y en a qui viennent aujourd'hui à l'église, ils attendent 6 mois après pour venir. Ils viennent demain, ils disent, bon, on va voir. En fait, les gens vivent comme ils veulent. Ça ne marche pas. Le dernier point ici, c'est 5e point, soyez reconnaissant à Dieu en refusant de garder par devant vous ses bienfaits. Parce qu'un homme qui refuse de partager est un homme qui n'est pas reconnaissant. La reconnaissance exige que quand quelqu'un t'a fait du bien, que tu montes pour qu'on lui dise ah, merci. Mais vous, regardez des gens, il y a des gens ici, Dieu a pris dans la boue, il les a lavés. Les sorciers devaient les tuer. Dieu les a... Non, aujourd'hui tu es beau, bien, belle femme, tu marches comme ça, avec tout ça. Ça vient d'où? Hein? Ne prenez pas à la légère les grâces que Dieu vous accorde. Parce que vous savez, les gens sont devenus tellement familiers avec Dieu que même quand ils se réveillent le matin, c'est normal. Demande à certaines personnes qui ne sont pas réveillées, vont te dire, malheureusement, ils ne pourront pas te répondre. T'appelle et dis, écoute, dis-moi pourquoi toi tu t'es pas réveillé, pour moi je me suis réveillé. Il ne peut pas te répondre malheureusement parce que pour lui est fini. Attendez, même quand tu te réveilles là, il faut être reconnaissant à Dieu. Parce que quand un homme dort là, c'est une sorte de mort. Tu ne contrôles plus rien, tu es parti. C'est-à-dire, tu ne contrôles plus rien. Il y a une seule personne dans le ciel qui peut t'appeler matin vers 5 heures pour dire ton nom, Patrice. Et puis tu dis, tu crois que, non, je vais me réveiller demain matin à 5 heures. Je vais me réveiller, même réveil, pour ne pas te réveiller. Dieu éveille ton esprit. Mais les gens prennent les choses du Seigneur à la légère. Dieu investit en vous des choses, des témoignages, vous n'en parlez pas. Dieu vous donne des choses, vous n'en parlez pas. Vous fermez votre bouche, les gens sont en train de mourir auprès de vous. Mais il n'y a pas de reconnaissance. Tu ne peux pas avoir une vie d'impact si tu n'es pas un homme reconnaissant. Parce que la reconnaissance exige que tout ce que Dieu fait pour toi, tu dis. Et puis les gens y viennent. Qu'est-ce qui fait que dans le monde, les féticheurs là, ça va pour eux? Quelqu'un va et dit, ah, je suis à la Korogo, c'était le gars là, il est fort, hein? Voilà comment les femmes se déportent. Et elles vont voir le féticheur là, parce qu'une a dit que lui là, son fétiche marche. Donc c'est un témoignage qui fait qu'on reconnaît quelqu'un. Comment les gens vont-ils reconnaître notre Dieu? Le grand Dieu! Avec tout ce que tu as là, tu es tout le temps en train de te plaindre pour dire, pour regarder à ce que Dieu n'a pas fait. Vous savez, souvent il est important d'être reconnaissant à Dieu pour ce qu'on n'a pas encore vu. Parce que vous savez, il y a une différence entre ce qu'on n'a pas encore vu et ce que Dieu n'a pas fait. Dieu peut faire quelque chose, mais sa manifestation est dans le temps. Non! Lis-moi le psaume 116, verset 17. Qu'est-ce qu'il dit? Regardez.
Je t'offrirai un sacrifice d'action de grâce. Et j'invoquerai le nom de l'Éternel.
Il dit, je t'offrirai un sacrifice, merci, d'action de grâce. Il savait ici là, il dit, je t'offre un sacrifice d'action de grâce. Lorsqu'il ajoute le mot sacrifice, action de grâce là, ça veut dire quelque chose. Quand quelque chose, il dit, je t'offre un sacrifice d'action de grâce. Ça veut dire que c'est une action de grâce qui, en temps normal, ne doit pas te revenir. Mais je vais te faire, je t'offre ça quand même. Je préfère t'offrir ça. Parce que, en fait, il est en train de dire simplement à Dieu, je n'ai pas encore vu un. Mais je vais quand même te louer. Parce que je crois que je le verrai. Ça là, c'est sacrifice. Quand la chose n'est pas là, et puis tu loues Dieu, comme si c'était là. Tu as la foi. Et les gens, non. Tu es là aujourd'hui. Vous savez, il faut faire très attention. Hein? Est-ce que vous savez ce qu'on appelle un homme souffre? Moi, je ne vois pas quelqu'un qui souffre dans la salle. Moi, sincèrement, je ne vois pas quelqu'un qui souffre. Parce que vous touchez, les yeux sont gonflés. Il n'y a pas quelqu'un qui souffre ici. Quelqu'un qui souffre. Allez, je ne sais pas où. Est-ce qu'il y a un coin on peut dire? Somalie. Le gars, il est comme ça. Même les mouches entrent dans sa bouche. Sa main est incapable de faire comme ça. Sa main n'a plus de force pour venir chasser les mouches qui entrent dans sa bouche. Il est là comme ça. Ses yeux sont blancs, ça regarde dans le vide. Il suce de sa main là, il n'y a rien qui sort, mais il sait dans sa bouche. Les deux sont amaigris. Que quelqu'un dise, Seigneur, je me repens ce matin. Quoi? Tu souffres? Je souffre. C'est des créatures de Dieu. C'est des créatures de Dieu comme toi. Tu as fait quoi et puis Dieu t'a mis où tu es? Tu t'habilles, tu portes des choses, tu changes de chaussures, les gens te font du bien. Mais il faut apprécier la grâce de Dieu. Et puis, il faut ouvrir ta bouche et puis dire aux gens. Mais les gens, ils ne parlent pas parce que pour Dieu ne fait rien. Si l'église se met à témoigner, Cocody va changer. Abidjan va changer. Parce qu'on a beaucoup à dire. Nous, là, les pasteurs, on a beaucoup à dire. Quoi? Ce que Dieu fait pour nous? Les gens n'attendent que ça pour savoir si le Dieu là, il marche. Mais il marche. J'ai dit, Dieu marche. Est-ce que quelqu'un peut dire amen? Amen. Tu n'avais pas d'avenir. Tes parents t'ont abandonné. Rien du tout comme avenir. Dieu t'a pris la main. De nulle part. Tu es ce que tu es aujourd'hui. Il faut être reconnaissant. Mais ta reconnaissance doit se traduire par ton témoignage. Parce qu'en réalité, il n'y a pas de reconnaissance quand on cache ou on garde par devant soi ce qu'on nous a fait comme bien. Pas de reconnaissance. Donc les chrétiens sont des ingrats. Ils parlent pas de Dieu. On dit Dieu. Mon frère, ça va? Il parle politique. Il parle travail. Il dit ici, on n'est pas à l'église. Frère, on est à l'église partout. Quand on n'est pas à l'église. Les gens ont besoin de sauver, tu dis on n'est pas à l'église. Partout, il faut parler de Jésus. Partout. Les musulmans, ils prient au bureau. Partout, à midi 30, 13 heures, tu vas dans un bureau. Le gars, il est en train de. Il dit, il prie. Directeur, il met sa natte là, il commence à prier. Vous dites quoi? Car le gars, il est musulman. Vous êtes sur la route. 16 heures, il garde le car. Vous êtes fâché, vous n'êtes pas fâché. Il met sa natte, il fait un truc un peu. Vous parlez, vous regardez pas, il jette des coups d'œil. Il croit en Dieu. Et c'est la honte pour l'église. Parce qu'on parle trop. On est là, oui, nous on est enfants de Dieu. Quand on est dans les veillées, au nom de Jésus, enfants de Dieu. Et puis on se trompe entre nous et puis on sort et puis on est requinqué. On dit, on devient orgueilleux, on est là, on regarde les gens. Non, ce n'est pas comme ça. Ayez de la gratitude envers ce Dieu. La profondeur de votre gratitude détermine votre altitude. Dieu est bon. Lis-moi Corinthiens 9, verset 16 et on termine. Qu'as-tu que tu n'as reçu? Tout t'a été donné. Dis merci à Dieu simplement. Parle de lui aux gens. Pour dire voilà ce que ce Dieu-là m'a fait. Il m'a fait ça. C'est ça la reconnaissance. La reconnaissance n'est pas autre chose. Oui, 1 Corinthiens 9, verset 16, oui.
Si j'annonce l'évangile, ce n'est pas pour moi un sujet de gloire.
Oui.
Car la nécessité m'en est imposée.
Il dit, annoncer l'évangile n'est pas sujet de gloire. C'est une nécessité. Et dans la Bible, quand on dit quelque chose, une nécessité, là, ça veut dire c'est vital. Tu regardes trop à toi, c'est pourquoi rien n'arrive. Je vous dis, il y a des secrets dans la vie. Il y a des choses, quand tu cherches, il ne faut pas regarder à la chose. Mais regarde aux intérêts de Dieu, la chose va venir. Tout poursuit Dieu dans la vie. Un homme qui poursuit Dieu, tout va le poursuivre. Je dis, un homme qui poursuit Dieu, tout va le poursuivre. Depuis que j'ai mis ma foi en Dieu et j'ai commencé à poursuivre ce Dieu-là sans relâche, il n'y a rien que j'ai cherché dans ma vie que je n'ai pas trouvé. Frère, et tu verras encore et encore et encore. Et je veux te dire, quand Dieu dit à Josué, tant que tu vivras, nul ne tiendra devant toi. Il parle de quelque chose qui est une réalité, ce n'est pas de la fiction. Est-ce que je peux faire confiance à quelqu'un ici? À partir d'aujourd'hui, ta vie sera une vie de témoignage. Tu vas parler. Partout où tu entres, tu parles. Maintenant, si tu me dis, pasteur, je ne sais pas parler, il y a des supports. Aide à traiter. Achète des CD avec la communication. Aide des packs de CD comme ça. Hein? Et puis tu trouves quelqu'un, donne-lui un CD. Donne un traité, mais vraiment bien fait. En quelques mots, il a le message. Ça, là, avant, on le faisait beaucoup. Maintenant, on ne le fait même plus. Parce qu'avant, les Américains subventionnaient les traités. Les gens avaient les paquets de traités partout dans les rues. Mais aujourd'hui, on ne le fait plus. Ça a sauvé beaucoup de gens. Mais est-ce que vous savez qu'en tant qu'église, on peut repérer certains anciens traités, même écrire. J'ai besoin des gens pour écrire des traités. C'est-à-dire, en 15 mots ou en ligne, tu me donnes un message poignant de Jésus. On va imprimer à l'église. On va subventionner. Et on va mettre à la disposition des gens pour aller chercher des âmes. C'est ça, on dit, j'ai un cœur pour Dieu. Oh, je suis prêt. Si quelqu'un peut me proposer des textes qui sont très bien faits, quelqu'un lit le truc. En 2 minutes, ce n'est pas raconter plein de choses parce qu'il n'a pas le temps. Donc, il te faut beaucoup de sagesse et d'inspiration pour que, quand le gars regarde d'abord le traité là, il a envie de continuer. Quand il ouvre la page qui suit, il est déjà dans le bain. Quand il ressort, il a envie de se mettre à genoux. Est-ce qu'on peut faire ça pour notre Dieu? Donc, ceux qui veulent écrire, voyez-moi tout de suite. On va commencer, on va mettre en place un truc, on va publier des traités qui vont servir. On pourra même subventionner certaines églises, leur donner des paquets de traités si on a une librairie, une imprimerie qui est prête à nous faire des choses. Aujourd'hui, personne ne veut. C'est ça l'œuvre. C'est ce que nos pères ont fait. Et ils sont devenus ce qu'ils sont aujourd'hui. Nous devons continuer le travail. Parce que leur foi, c'est notre foi. Est-ce que quelqu'un peut dire amen, 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 amen?
Vous avez été béni par ce message? Vous pouvez nous contacter à l'adresse suivante. www.abmc.net. Email info@abmc.net. Téléphone 22 41 75 53. Que Dieu vous bénisse.